Parce que je trouve que le jeu vidéo, même si c'est un jeu solo, ça reste un très beau moment de partage. Et ça peut, justement, ce que je disais, créer un lien relationnel.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Hello.
Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Céline Nicolini. Céline est coach spécialisée dans l'hypersensibilité et l'utilisation du jeu vidéo dans le bien-être. Hypersensible et passionnée de jeux vidéo, elle est la créatrice du blog journaldegameuse.fr qui publie régulièrement des articles parlant de jeux vidéo, de développement personnel et de santé mentale. Enfin, Céline accompagne également la structure e-sport Hope Guardians en tant que préparatrice mentale bénévole. Comment tu vas aujourd'hui, Céline ?
Bah écoute, je vais super bien, et toi ?
Ouais, ça va aussi. On est très content que tu aies accepté l'invitation et que tu sois avec nous aujourd'hui. Sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on retourne en 1998 avec un jeu qu'on ne présente plus, qui a marqué je pense tous les possesseurs de Nintendo 64, c'est Zelda Ocarina of Time. On va en dire quelques mots quand même, c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti en 1998 et qui a été développé par Nintendo EAD. C'est le premier Zelda en 3D et il a à sa manière révolutionné le jeu d'aventure. Première question pour toi, je crois que tu as découvert les jeux vidéo via la Nintendo 64. Alors est-ce que tu peux nous raconter ta découverte du médium et tes premiers souvenirs avec Zelda ?
Tout à fait, oui, j'ai découvert le jeu vidéo via la Nintendo 64. Donc moi j'avais environ 8-9 ans quand je voulais absolument une console de jeu à moi. À l'époque, j'avais un peu vu ma sœur jouer à la console, déjà, qui jouait sur une Sega Master System 2. Et, et en réalité, j'ai vraiment eu envie d'avoir ma console à moi. Et à force de casser les pieds à mes parents, ils m'ont acheté une Nintendo 64 et je l'ai eu à un Noël. Quand j'avais cette console, au début, j'avais que Mario. Et j'ai découvert Zelda avec la publicité qui est passée à la télé à l'époque, qui disait rendez-vous le 12 décembre. Et quand j'ai vu cette publicité, je suis tombée amoureuse vraiment sous le charme de Zelda. Okay. Et j'ai voulu absolument jouer à Zelda. Je l'ai eu directement après à Noël. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre.
Donc raconte-nous un peu comment c'était et qu'est-ce que t'as aimé dans l'univers et est-ce que ça t'a pris directement ou pas ?
Oui, ça a pris directement. Ce que j'ai aimé dans l'univers, ça a été déjà vraiment tout ce qu'il y avait autour de la musique. Ocarina of Time, c'était vraiment un épisode qui apportait cette dimension musicale avec tous ces chants qu'il fallait apprendre à l'ocarina. Mm. Et ça a été vraiment... Justement, lié à mon hypersensibilité, je suis vraiment quelqu'un qui est très sensible à l'univers musical. Et ça a été vraiment le coup de foudre là-dessus, avec cette histoire de l'ocarina, de pouvoir gérer le temps, de devoir apprendre les mélodies. Et ça a été vraiment le coup de foudre, sur le coup. Ensuite, ça a été aussi le lien... aussi le lien qui a permis de jouer avec ma sœur à l'époque, ma grande sœur.
Ok.
Et on a découvert ensemble comment résoudre des énigmes, comment élaborer des stratégies pour battre les boss. Donc ça a été... non seulement le lien s'est fait avec le jeu vidéo à ce niveau-là, et le lien s'est fait avec ma sœur. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que le personnage principal du jeu s'appelle Link. Pour le coup, c'était très poétique.
Le petit clin d'œil. Et est-ce que tu te souviens si à l'époque, tu avais réussi à finir le jeu avec ta sœur ou pas ?
Oui, on a réussi à finir le jeu, exact. Avec beaucoup de difficultés. Mais on a réussi à le faire et on l'a fait ensemble. Donc l'épisode vraiment de fin du jeu nous a marqué toutes les deux. C'était juste incroyable à l'époque de voir un jeu pareil en 3D avec des cinématiques hyper immersives et la fin du jeu, elle est vraiment très charismatique avec ce boss qu'on rencontre dans le château Ganondorf Et c'était vraiment hyper stressant d'aller battre Ganondorf. On avait vraiment, on était dans cette ambiance pesante de rentrer dans le château, de rencontrer le méchant. Et cette fin était vraiment très difficile et très longue.
Elle était longue ?
Oui, parce qu'elle était en 4 étapes.
Ah oui, ok.
Elle était en 4 étapes, il me semble. La première, c'était la rencontre du coup de Ganondorf dans le château, avec les espèces de plateformes. Quand Ganondorf envoie des boules de lumière, et en fait, il faut les renvoyer avec l'épée. Et une fois que cette étape elle est finie, il faut sortir du château avec la princesse Zelda.
Oui.
Et en fait, cette période, elle est timée. Et c'est hyper stressant. Et ensuite, il y a la rencontre avec Ganon, du coup. Donc, en 3 étapes, pas en 4, pardon.
Le combat final dans la plaine.
Le combat final dans la plaine, c'était pas dans cet épisode, il me semble.
Ah, ouh. C'est totalement possible. Je mélange les Zelda, mais je me vois affronter Ganondorf dans une plaine.
Ça, c'est dans Twilight, il me semble. Twilight Princess.
Ok.
Qui est très bien aussi, d'ailleurs.
J'allais dire, c'est Breath of the Wild aussi, parce que j'ai la toute fin là, dans la plaine, mais...
Aussi.
C'est pas Ganondorf, c'est Ganon. Ça. J'imagine ouais. qu'il y a peut-être un clin d'œil entre les épisodes de Zelda, mais pas sûr.
Tout à fait. Mais après, dans... Coup... Oui.
Non, vas-y.
Dans Ocarina of Time, il y a vraiment cette dimension, on affronte Ganondorf et ensuite Ganon. Et c'est vraiment ça que j'avais aimé et on le retrouve pas dans tous les Zelda, cet épisode final où vraiment on rencontre les deux parties de Ganondorf au final.
D'où le fait que cet épisode-là, il est à la base de tout l'embranchement de l'histoire de Zelda, etc.
Oui, exact. Parce qu'après, les épisodes précédents sont en 2D et soit sur console portable, il me semble, et sur les anciennes Nintendo. Mais c'est vrai que cet épisode-là, il a marqué vraiment une nouvelle ère des Zelda. Et du coup, bah pour moi, il a marqué le début de ma relation vidéoludique.
Est-ce que parce que du coup, t'as parlé du fait de jouer à des jeux solo en coop, c'est quelque chose qui est très drôle en fait quand on est petit. Est-ce que derrière, t'as continué à jouer à des jeux solo en coop avec ta sœur ou pas?
Oui. Mais moins, malheureusement, parce que la vie a fait que ma sœur, elle a dû faire sa vie de son côté et que voilà. Mais moins. En revanche, c'est des choses que je pratique aujourd'hui avec mon partenaire, par exemple. C'est des habitudes que j'ai pas perdues en fait, parce que je trouve que le jeu vidéo, même si c'est un jeu solo, ça reste un très beau moment de partage. Et ça peut justement, ce que je disais, créer un lien relationnel.
Tu parlais un peu plus tôt là des musiques et du fait que c'est quelque chose qui t'a beaucoup attiré dans l'univers. Est-ce que dans la saga Zelda et plus précisément Ocarina of Time, il y a certaines musiques qui te marquent plus ou que tu retiens, qui sortent du lot?
Oui. Oui. Il y a certaines musiques qui m'ont beaucoup marqué, notamment la berceuse de Zelda. La berceuse de Zelda, c'est vraiment une musique qui m'a marqué. Et après, dans d'autres jeux aussi. Mais je pense que les musiques de Zelda, et notamment le thème,
oui.
nous portent un peu tous en tant que fans de Zelda. D'ailleurs, je suis allée voir un concert orchestral. J'ai eu la chance de voir un concert de la symphonie orchestrale et c'était juste énorme quoi.
Fameux. Ouais, ça t'a plu?
Ah oui, beaucoup. J'ai beaucoup pleuré pendant ce concert.
Il y a de quoi, ouais, avec les violons et tout. Enfin, c'est hyper.
C'est
ils cherchent ça, je pense. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est très puissant.
Ouais. Plus les visuels et forcément, tu te remémores les moments où t'as joué, la nostalgie. Enfin, c'est un bon cocktail d'émotions.
Ouais. C'est un bon cocktail d'émotions et c'est une Madeleine de Proust incroyable.
C'était un certain Zelda ou tous les Zelda?
Dans le concert, ils refont en fait la chronologie de tous les Zelda.
Okay.
Donc tout le monde y trouve son compte en fait.
J'ai dans ma playlist, je me suis fait une playlist depuis que je suis arrivé au Canada, puis j'ai de Wind Waker fait par un orchestre. Voilà. On a chacun notre musique des Zelda qui nous a le plus marqué, on va dire. Est-ce que t'as parlé du fait que la fin t'avait stressé de Ocarina of Time? Est-ce que t'as tenté l'expérience de l'autre Zelda sur Nintendo 64, du coup?
Majora's Mask?
Ouais.
Oui. Et,
très bonne question.
un petit peu stressant, du coup.
Ah oui, Majora's Mask, c'est vraiment toute une autre ambiance. Et évidemment que je l'ai testé. C'était juste la logique de prendre Majora's Mask par la suite. J'étais tellement triste de savoir que j'avais terminé Ocarina of Time qu'il fallait vraiment une suite. Et en fait, Majora's Mask se voulait comme une forme de suite. Mm-hmm. Sauf que ben c'était tout un autre univers. C'était vraiment très, très différent. Ouais. Et beaucoup plus angoissant, oui.
Moi, je crois que c'est la suite logique si... En fait, dans les trois branches là, de après Ocarina of Time, c'était la suite de si le monde... C'est l'apocalypse, en fait. Donc c'est si Ganon gagne, en fait. Enfin, Ganondorf gagne. S'il arrive à devenir le chef, machin, etc. Et il survit.
Oui, peut-être, oui, effectivement, il me semble que ça devait être ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que cet épisode, il était très marquant aussi. Même musicalement aussi. Hein. Mais il était... marquant et frustrant, parce que le système de sauvegarde était très particulier.
Ouais, j'imagine avec le système de jour, non ?
C'est ça, c'était en fait un espèce de timing dans lequel il fallait réaliser les quêtes et réaliser les donjons. Sinon, ça ne sauvegardait pas. Et il y avait vraiment une difficulté à ce niveau-là, qu'ils ont corrigé ensuite sur la version 3DS. Et j'ai mieux apprécié d'ailleurs de jouer vraiment à Majora's Mask sur 3DS.
Un peu moins de pression, un peu moins de stress, genre la course contre la montre était moins présente.
La sauvegarde, elle était vraiment améliorée. Donc on pouvait plus facilement sauvegarder. Donc effectivement, c'était moins le stress de la course contre la montre, même s'il y avait quand même une course contre la montre.
Ouais. C'est un format de jeu qu'on retrouve pas souvent.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Moi, à chaque fois que je vois ce jeu et je vois des vidéos sur ce jeu, je me dis après Majora's Mask, il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui font ça là. Le jeu est fait pour te stresser en fait. Le jeu est pas relaxant quoi. Enfin, celui qui arrive à relaxer là-dedans, je pense à un semi-psychopathe au minimum quoi. et c'est ça. Même les musiques, comme t'as dit, elles sont marquantes, mais elles sont marquantes parce qu'elles font peur. Enfin, genre. C'est tout est et je crois il y a même une rythmique qui augmente en fonction des jours parce que plus la lune elle s'approche, je crois jour 1 c'est un thème, jour 2 c'est le même thème mais en accéléré et jour 3 c'est beaucoup plus rapide.
Tout à fait.
Tout est fait pour te stresser vraiment, genre le jeu a été designé je pense pour stresser les gens.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, tu as raison. Le premier jour, il y a une musique et elle est à un certain rythme. Le deuxième, elle accélère. Et le troisième, elle a carrément accéléré la musique. Et ça devient l'urgence. Tu sens que t'as plus beaucoup de temps pour réaliser les quêtes et devenir un héros.
Et je crois même, tu regardes en l'air, puis t'as la lune qui est littéralement genre en train de te regarder de super proche. Puis t'es là genre... D'accord.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que ce Zelda est particulièrement sombre. Il n'y a pas la même, il y a pas du tout la même ambiance que dans Ocarina of Time.
Et d'ailleurs, je crois que le nouveau Zelda, il avait été décrit comme quelque chose qui est, au niveau de à quel point il est sombre, quelque chose de plus proche d'un Majora's Mask que d'autres jeux. Du coup, on va voir avec quoi on se retrouve, mais. J'ai bien hâte de voir ça.
Oui, c'est possible. Bah, j'ai hâte aussi. On va voir ce que ça donne. Alors, à savoir si ça va être un DLC ou une histoire à part entière.
C'est vrai. Bah, je pense que le temps de développement, il a pris moins de temps parce qu'il n'y avait pas tout à refaire. Puis je pense qu'il a commencé à être développé, je pense, il y a bien longtemps. Mais c'est juste qu'ils ont commencé à annoncer qu'il était en développement des années après. Mais c'est sûr que... J'ai hâte de voir. J'attends Mimé avec impatience.
Ouais. Après, très honnêtement, si on devait faire un comparatif, J'ai beaucoup aimé les derniers Zelda, j'ai beaucoup aimé Breath of the Wild, mais Ocarina of Time restera toujours dans mon cœur et restera toujours le meilleur Zelda qui existe au monde.
C'est compréhensible. Est-ce que tu as rejoué récemment?
Oui. Okay. Sur la 3DS, parce que j'ai toujours ma petite 3DS avec mon Zelda Ocarina of Time amélioré. Et ça me fait ma petite, mon petit retour en enfance, mon petit lien avec mon enfant intérieur.
Et ça a donné quoi? Je suis curieux. Est-ce que t'as réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure ou pas?
Je recommence régulièrement l'aventure. Okay. Je recommence régulièrement l'histoire et je la refais et je m'en lasse jamais en fait.
Ok.
Très honnêtement, je pourrais pas dire combien de fois j'ai refait le jeu.
Ouais, à ce point-là.
Oui, c'est à ce point-là.
Cool. Parce que, pareil, je suis un gros fan de Zelda et particulièrement le premier Ocarina of Time. Mais à chaque fois que j'essaie de m'y remettre sur 3DS, genre je joue jusqu'à un certain point et au bout d'un moment, je le laisse. Et j'ai pas envie de reprendre à ce point où je l'ai laissé, donc je recommence. Donc, en fait, c'est une boucle, mais sans jamais finir le jeu.
C'est un arbre mojo, tu le connais par cœur.
Ouais, vas-y.
Je comprends. J'ai fait aussi pas mal de fois où... De sauvegarde où je vais pas forcément jusqu'au bout. Il peut y avoir un certain blocage. Personnellement, il y a des temples comme le temple de l'ombre ou le temple de l'eau qui restent vraiment des étapes très très difficiles. Faut avoir de la motivation pour y aller.
Pour le second jeu, on va changer de style et parler d'un MMORPG à succès avec Guild Wars 2. C'est développé par ArenaNet et distribué par NCSoft. Et le jeu est sorti en 2012 et a donc fêté ses 10 ans l'année dernière, avec notamment une release sur Steam. Première question par rapport à ce jeu-là, est-ce que tu y joues toujours actuellement ?
J'y joue toujours actuellement, je m'y suis remise l'année dernière.
Ok.
C'est un jeu qui se renouvelle sans cesse et aujourd'hui le jeu il a plus rien à voir avec ce qu'il était quand il est sorti en 2012. Quand j'ai commencé à y jouer, c'était une amie qui m'a montré le jeu à l'époque. C'était une de mes voisines. Je vivais dans un patelin où vraiment il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. C'était même pas un village, c'était un hameau. Donc vraiment, on s'ennuyait ferme. Fort heureusement, du coup, j'avais cette amie qui habitait à côté de chez moi. Et j'allais la voir régulièrement et elle me montrait ses jeux. Et un jour, elle me montre sur le PC Guild Wars 2. Elle me montre du coup l'univers énorme que c'est à explorer. Et moi, je connaissais pas du tout les jeux en ligne. Et à partir de ce jour-là, je l'ai installé sur mon petit ordinateur HP de l'époque et j'ai commencé à jouer et je me suis plus jamais arrêtée. Sauf en 2017 où j'ai commencé à faire une pause et une très très longue pause et je m'y suis remise donc l'année dernière.
Est-ce que depuis tu joues à d'autres multijoueurs avant qu'on parle un peu plus de Guild Wars?
Oui, j'ai découvert quand même d'autres jeux en ligne, ben notamment Overwatch. C'est pour ça aussi que aujourd'hui je suis rentrée dans la structure e-sport. C'est notamment autour d'Overwatch que cette structure évolue. Et d'autres jeux en ligne, mais il faut dire que je suis revenue à Guild Wars 2. Parce que ce jeu était vraiment ultra complet à mon sens et rares sont les autres multijoueurs qui font aussi bien pour moi.
Est-ce que t'as déjà essayé aussi d'autres MMORPG? Genre pour avoir un peu essayer de comprendre qu'est-ce que Guild Wars a de plus que les autres pour toi en tout cas.
Oui, à une époque, j'avais testé World of Warcraft. C'était une collègue de travail à l'époque qui m'avait un peu incité à essayer World of Warcraft. J'ai adoré World of Warcraft. En revanche, il est vrai que je m'y suis mise tard comparé à la date de la sortie du jeu. Donc c'est quand même, les premières quêtes sont un peu vieillissantes. et il fallait quand même payer un abonnement, et ça me dérangeait. Sachant que je connaissais Guild Wars qui à côté ne propose pas d'abonnement payant. C'est vraiment, on achète le jeu et puis voilà, on joue autant qu'on a envie de jouer, et même si on arrête pendant 3 mois, on paye pas un abonnement qu'on ne rentabilise pas.
Est-ce que tu peux nous parler peut-être en lien avec ça, l'importance de la communauté? Par exemple, celui-ci t'a été introduit via ta voisine. Est-ce que du coup tu jouais seulement avec elle, ou au fur et à mesure t'as découvert d'autres personnes?
Alors, au début, je jouais de temps en temps avec elle, et au final, je suis rentrée dans une guilde. Je suis rentrée dans une guilde et j'ai découvert effectivement les interactions sociales que proposait le jeu. Et je suis très vite devenue officière dans cette guilde. J'avais un statut à responsabilité. je m'occupais des recrutements et je m'occupais d'enseigner un petit peu aux joueurs comment le jeu évoluait. Et j'adorais ça. J'adorais le contact humain que ça proposait, qu'on pouvait avoir. Et au final, je me suis fait de vrais amis, des gens que j'ai rencontrés en vrai, IRL. et ça n'a pas de prix, vraiment.
Et des compétences en plus. Compétences de recrutement, de formation.
Tout à fait. Au final, quand je faisais le parallèle, quelques années après, parce que sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de tout ce que ce jeu m'avait apporté. Mais en réalité, quand je faisais le parallèle avec le monde du travail, par exemple, ça m'a appris beaucoup de compétences de management, de formation, de gestion d'une équipe, de compétences émotionnelles, l'intelligence émotionnelle, le fait d'aller vers les autres, de leur apprendre des choses, de l'entraide, de toutes ces compétences humaines, et à la fois des compétences qui peuvent servir au travail. Ouais.
Ouais, il y a pas mal de reportages là-dessus sur le fait que c'est surtout sur WoW que ça se fait connaître, parce que WoW est juste le plus gros MMORPG, mais que c'est des vraies mini-entreprises, les guildes. Enfin, si c'est des guildes aussi, je crois, sur WoW. Mais ouais, c'est des mini-entreprises, il y a chacun qui fait... Et c'est un job à plein temps. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des gens, ils passent un bon 8 heures par jour à gérer tout ça, en plus de jouer.
Tout à fait. Au début, les premières années, j'ai passé quand même pas mal de temps sur le jeu. Il faut dire que dans ma vie, à l'époque, je me sentais un peu isolée. Je me sentais seule. Du coup, dans le jeu, je retrouvais ces connexions sociales que je pouvais pas avoir en vrai. Et au final, c'est devenu un vrai investissement, un engagement. Et la guilde, ça tourne comme une entreprise. Si la guilde veut évoluer, on avait vraiment des rôles prédéfinis et on avait des objectifs à atteindre. Et donc du coup, on s'organisait autour de ça et on avait une certaine motivation à vouloir évoluer ça et à vouloir faire en sorte que la guilde progresse.
En vrai, c'est fou. Genre, je me dis, c'est tellement... Ça se trouve, il y a des gens là qui gèrent des guildes de je sais pas combien de personnes qui seraient des super CEO d'énormes boîtes et tout. Je trouve ça très drôle de se dire que ouais, ça a passionné tellement de gens, et sans s'en rendre compte, les gens en fait ont géré tout ça. C'est un travail, quoi. C'est du travail dissimulé en soi. Genre le jeu t'apporte un travail dissimulé. Du coup, c'est drôle de se dire.
Bah clairement, oui. C'est très très formateur. Je pense qu'aujourd'hui, certaines entreprises se rendent compte du potentiel que peut apporter le jeu vidéo sur leurs employés et font un petit peu du recrutement en rapport avec ça. Et c'est tellement cohérent, parce que toutes les compétences qu'on développe dans un MMO sont des compétences qu'on peut appliquer au travail.
Clairement. Pour revenir sur l'aspect peut-être un peu plus gameplay, etc., toi, tu jouais quel type de personnage? Ou tu joues quel type de personnage?
Alors, Souvent, je me retrouvais à jouer le support heal et c'était un rôle qui me plaisait énormément. Et c'est totalement cohérent avec ce que je fais aujourd'hui au final. Parce que voilà, c'était ce qui me permettait d'aider les autres, de veiller à ce que tout se passe bien dans l'équipe, de veiller à ce que tout le monde soit toujours bien en vie. Et ça me permettait aussi d'être ce rôle un peu de lead et d'encadrer l'équipe.
Ok. Est-ce que tu as fait plusieurs guilds différentes ou comme l'une des premières avec lesquelles tu t'es bien entendu, tu es resté dedans au fil des années et gardé contact?
Alors, j'ai fait plusieurs guilds différentes. La première guild dans laquelle j'ai évolué, et c'est aussi dans laquelle j'étais le plus investi. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une guilde qui n'existe plus. Je n'ai plus de contact avec certaines personnes. Après, d'autres personnes, j'ai gardé contact. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle guilde, mais totalement avec un autre rôle, avec un beaucoup plus de distance. Mmh. C'était pas dans mon souhait de m'investir autant aujourd'hui. Je prends le jeu de manière totalement différente aujourd'hui. C'est vrai que l'investissement que ça m'a demandé il y a quelques années, aujourd'hui, je peux plus me le permettre.
Mmh. Donc, tu as vécu deux guildes.
Donc, j'ai vécu deux guildes. Et,
fidèle du coup.
Je suis du genre très fidèle, oui. Je suis du genre très fidèle. Après, c'est pour moi une façon de connecter avec les gens, de les aider dans le jeu et aussi de communiquer avec eux. Même si aujourd'hui j'ai plus le même investissement dans la guilde, j'apporte quand même un soutien de temps en temps.
Et puis je pense que tu joues à d'autres jeux. À l'époque, tu jouais potentiellement genre 90% du temps à Guild Wars, non?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai aussi d'autres priorités. Et je préfère consacrer plus de temps à d'autres jeux. Donc c'est pour ça que je prends le jeu différemment, même s'il m'apporte toujours les mêmes choses. Donc ces connexions sociales et des compétences humaines, je préfère mieux répartir mon temps de jeu pour pouvoir découvrir les pépites qui existent sur console et et d'autres jeux qui pourraient potentiellement m'apporter énormément de choses.
Moi, je pense que c'est une très bonne transition pour ton troisième et dernier jeu. Tu parlais de pépites, et là, on va parler du jeu donc le plus récent de ta liste, qui n'est d'autre que Life is Strange True Colors, développé par Deck9 et édité par Square Enix. C'est un jeu d'aventure graphique sorti en 2021, dans lequel on incarne Alex Chen, une jeune femme dotée d'un pouvoir psychique d'empathie, qui lui permet de ressentir et de manipuler les émotions intenses des gens qui l'entourent. Suite au décès de son frère dans un prétendu accident, on tente de résoudre le mystère entourant sa mort et de faire émerger la vérité. Alors, première question assez vaste, mais on pourra recentrer par la suite. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la licence Life is Strange et ce style de jeu ?
Tout à fait. Life is Strange, en fait, c'est une licence que j'aime beaucoup depuis le premier volet.
Okay.
Donc les premiers Life is Strange, c'était réalisé par le studio Dontnod. Mmh. Et c'est un studio que j'aimais déjà beaucoup. Les aventures Life is Strange sont vraiment atypiques dans leur façon de procéder. Au début, le premier jeu, c'était vraiment par épisode. Et on avait cette option de découvrir un épisode et de savoir si on allait acheter le deuxième, ensuite le troisième, etc. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert cette aventure narrative, et qui était déjà très émotionnellement immersive. Ensuite, j'ai découvert les autres, et ça m'a toujours vraiment plu. Et au final, jusqu'à ce troisième volet, Life is Strange True Colors, qui a vraiment changé pas mal de choses pour moi et qui a mêlé complètement le développement personnel et le jeu vidéo, qui sont vraiment deux univers que j'aime beaucoup.
Ouais, justement, je crois que tu utilises Life is Strange comme un de tes outils d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, peut-être ?
Tout à fait. J'utilise Life is Strange True Colors pour mon accompagnement sur l'hypersensibilité. C'est un outil hyper précieux pour pouvoir apprendre sur l'empathie, les émotions et comment un hypersensible fonctionne. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ça qui se passe dans le jeu, c'est que Alex, elle est totalement hypersensible et elle perçoit les émotions des autres. Aujourd'hui, c'est vraiment cet apport assez impressionnant que peut nous amener le jeu vidéo. Concrètement, c'est ce message de savoir comment on peut se retrouver à travers un personnage. Et Alex, elle a vraiment cette compétence-là. Au début, elle pense que c'est un problème. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle se rend compte qu'en fait, non, c'est vraiment une force pour elle. Et c'est pour ça que ce jeu m'a vraiment permis de développer mon programme spécifique pour l'hypersensibilité.
Bon, c'est vraiment à travers le gameplay et l'histoire que t'accompagnes les gens.
C'est en fait un complément, ça reste un support. J'ai pas basé tout le programme sur le jeu. Ça reste un support qui va nous permettre de traiter un aspect de l'hypersensibilité.
Ça, parce qu'à travers le jeu, moi j'ai eu l'occasion de le faire là rapidement en une semaine, on est amené à voir dans différentes situations comment elle réagit et comment elle perçoit l'émotion d'une personne en face d'elle. Donc que ce soit la peur et essayer de comprendre pourquoi la personne a peur et essayer de l'accompagner, se mettre à sa place et trouver des solutions pour l'aider, que ce soit la colère, la joie. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir comment ils réussissent à, avec différents personnages, leur personnalité et les problèmes qu'ils rencontrent, à te faire te poser des questions et te mettre à leur place un peu.
Oui, ben c'est exactement ça et c'est très intéressant justement pour soit pour quelqu'un qui est hypersensible et qui peut comprendre un peu ce qui se joue au niveau de son empathie, soit pour quelqu'un qui a vraiment du mal à capter ce que c'est les émotions. Parce qu'on a vraiment tout un apprentissage à faire là-dessus, hein, faut le dire. Et dans ce jeu-là, à travers les personnages, on apprend vraiment comment l'émotion intervient dans nos réactions. Et c'est vraiment précieux d'avoir ces informations-là. C'est précieux autant pour sa vie de tous les jours que pour sa vie dans le jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment assez intense comme gameplay.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux un peu dans le même genre ou pas? Dans le sens où, genre, est-ce que t'as eu d'autres jeux qui t'ont marqué parce que justement ça montrait peut-être la perception, pas nécessairement que de la de l'hypersensibilité, mais ça peut être aussi d'autres conditions ou d'autres choses comme ça?
Ça arrive de plus en plus. Après, il existe quand même pas mal de jeux sur lesquels on va pouvoir travailler plusieurs aspects émotionnels et dans tous les jeux on peut travailler différentes choses comme par exemple la gestion du stress, la motivation, le dépassement de soi. Mais de plus en plus, on va avoir des jeux qui vont mêler développement personnel et, qui vont mêler développement personnel dans leur gameplay, qui vont amener un petit peu cette dimension des émotions, de la spiritualité, du développement de son épanouissement dans l'histoire, dans cette façon de jouer. Et par exemple, on a de la méditation dans Kena, Bridge of Spirit. C'est des choses qui arrivent petit à petit et je pense que ça devient vraiment de plus en plus intéressant d'amener cet apprentissage de comment on peut développer ses compétences émotionnelles et développer des compétences épanouissantes à travers un jeu.
Est-ce que toi, en repensant à Life is Strange, là, est-ce qu'il y avait des moments qui t'ont particulièrement marqué, où tu t'es potentiellement reconnu, où t'as pu vraiment être comme en empathie avec le personnage?
Oui. Alors, il y a beaucoup de moments où je me suis reconnue dans le jeu, parce que je suis vraiment une personne très hyper empathique.
Okay.
Et par exemple, le moment où Alex, elle se pose pour jouer de la guitare. Et là, c'est pareil, on revient à la musique, au côté très très artistique. Bon, en gros, c'est un peu son moyen de décompression, son moyen d'extérioriser. Et je trouve que aussi Life is Strange au niveau musical, d'ailleurs, on impose pas mal.
Ouais, c'est une de leurs forces. À chaque opus, je pense, les playlists elles sont pensées au millimètre près et pas mal partagées par la suite.
Exactement. Ben, les playlists Life is Strange font partie de mes playlists de musique que j'écoute régulièrement, d'ailleurs.
Est-ce que c'est un jeu qui se joue aussi facilement en solo? En coop, enfin, comme ce dont on a parlé avant ou pas?
Alors, vu que c'est un jeu dans lequel il faut faire des choix, pour le coup, je pense pas qu'il se joue en coop. Plutôt en mode spectateur, la coop, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que le choix est important.
Okay.
Et le libre arbitre est important.
En parlant de choix important, là, le jeu est vraiment frais dans mon esprit, là. Est-ce que tu t'attendais, il y a une sorte de retournement de situation, une trahison d'un des personnages? Est-ce que tu t'attendais à ça, toi, ou pas vraiment?
Je ne m'y attendais pas, effectivement. Okay. Je vois de quoi tu veux parler. On va pas donner de détails pour éviter de trop spoil. Mais effectivement, c'était intéressant comme retournement de situation. Parce que ça peut mettre aussi en lumière le fait que on a beau avoir beaucoup d'empathie, on a beau comprendre les émotions des autres, ça nous empêche pas d'être trahis.
C'est vrai.
Ça nous empêche pas d'être trahis et on peut se faire manipuler. Et ça, c'est un aspect vraiment important à comprendre dans Life is Strange aussi.
Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres questions par rapport au jeu ? On a parlé de la musique, des moments forts. Est-ce que, ouais, il y a quelque chose que toi, que tu trouves manquait au jeu? Ou, par exemple, tu peux te dire qu'ils auraient pu faire mieux sur un aspect ou autre?
Pour ma part, j'ai trouvé que le jeu n'était pas assez long, mais ça, c'est parce que je l'ai beaucoup aimé. parce que j'ai beaucoup de mal pour ma part à finir les jeux, parce que quand c'est la fin, c'est fini, il y en a plus. Mais non, en final, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à lui reprocher. C'est vrai que y a eu beaucoup de doutes sur la sortie de ce jeu parce que c'était justement pas le même studio qui travaillait dessus et que j'ai énormément de respect pour le studio Dontnod. Mais non, j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher à ce jeu. Après, je sais très bien que tous les jeux ont leurs imperfections et on les aime aussi avec leurs imperfections. Mais voilà, ça serait peut-être le temps de vie du jeu. C'est vrai qu'il est très court, hein. On le fait très rapidement. Et à la fois, ça prouve aussi qu'un jeu n'a pas besoin de durer 40 heures pour être très bon.
Ouais, c'est ça. Ça doit être une dizaine d'heures et c'est quoi, 5 épisodes, je crois.
Exact.
Donc, ouais, c'est assez rapide. Mais il me semble qu'il y a aussi un DLC qui est sorti où on suit l'un des personnages justement pour en savoir un peu plus sur son histoire et son évolution. Est-ce que tu l'as fait, celui-là?
Non, j'ai pas fait le DLC. Il faudrait que... J'ai bien envie de le faire aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas fait.
Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Life is Strange? Un point qu'on n'aurait pas abordé?
Non, je conseillerais vraiment à tous les hypersensibles d'y jouer pour comprendre leur mode de fonctionnement et que c'est une pépite de jeu. C'est un des derniers jeux qui reste vraiment très très marquant. Donc je le conseille à tout le monde.
Let's go. On arrive là déjà sur les questions de la fin. Est-ce que tu peux nous parler des jeux auxquels tu joues en ce moment, si on a?
Alors, en ce moment, je joue à Hogwarts Legacy. Quelle grande surprise, vu que tout le monde y joue. Et je joue à Monster Hunter Sunbreak sur la Nintendo Switch. Je joue également, je rejoue à Guild Wars 2 et je rejoue à Overwatch.
Overwatch 2 aussi.
Overwatch 2, tout à fait. Pour pouvoir m'améliorer et surtout parce que rentrer dans la structure e-sport, ça m'a donné envie de m'y remettre.
Top. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte ?
J'ai été très heureuse de participer à ce podcast. Je conseille à tout le monde de jouer aux jeux vidéo. Et je conseille à tout le monde de partager le jeu vidéo, que ce soit avec son partenaire, ses enfants, ses frères et sœurs, à tout le monde.
Top. Bon, merci beaucoup, Céline.
Merci.
Merci à vous.
C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.